you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Difior. Et la prise de son est assurée par Pascal Baudin, la réalisation signée Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Raphaël Léris, Elisabeth Franck-Dumas et Lucille Como. À notre sommaire, si un inconnu vous aborde, Laura Kaczynski chez Page à Page, Or, d'Odur Ava Olafsdottir chez Zulma et Ceux d'ici de Jonathan Dee chez Plomb. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition dans la peau d'un soldat de la Rome antique à nos jours. C'est jusqu'au 28 janvier au Musée de l'Armée à Paris. Et nous débutons cette dispute avec un recueil de nouvelles de Laura Kaczynski, « Si un inconnu vous aborde », publié chez Page à Page, traduit par Céline Leroy, avec une préface de Véronique Ovaldé. On connaît plutôt bien les romans de l'auteure américaine publiés en France chez Christian Bourgois. Page à Page avait édité l'an passé un recueil de poésie qui occupe une place importante dans la production de Kaczynski. « Si un inconnu vous aborde », c'est, je crois, à ce jour le seul recueil de nouvelles de l'auteur, paru en 2013 aux États-Unis, désormais disponible en français. Chanson de David Lynch pour entrer dans les nouvelles de Laura Kaczynski. Si un inconnu vous aborde, c'est le titre de la toute dernière nouvelle d'ailleurs. On en parlera ou pas. Commençons par où vous voulez, Elisabeth Franck-Dumas.
Oui, on pourrait presque commencer avec cette musique lynchienne, puisqu'il y a une atmosphère toujours très lynchienne dans les livres de Laura Kaczynski et dans ses nouvelles particulièrement. D'ailleurs, on ne parle pas souvent des couvertures, mais là, ça mérite peut-être deux, trois mots. C'est une photographie de Grégory Crutzen, qui, comme Laura Kaczynski, sonde toujours très bien ce qu'il y a d'étrange et d'inquiétant dans les banlieues un peu fades des États-Unis, qui sont très souvent le contexte de ses romans, pas toujours, et le contexte de ses nouvelles. Moi, j'ai retrouvé dans ce recueil de nouvelles ce que j'aime chez Laura Kaczynski, à savoir cette espèce de tension qui flotte comme un nuage inquiétant sur la narration et qui est distillé au compte-gouttes, un sens de l'étrange, je le disais, qui imprègne le quotidien le plus banal de la psychologie, généralement très fine, qui s'attache souvent aux personnages féminins, aux relations familiales, mais pas seulement. Et surtout ce don de l'image absurde, voire de la création de concepts qui fait mouche et qui vient se déposer sur des situations qu'on connaît connaît tous. Je pourrais vous en donner. Il y en a quasiment des exemples à chaque page. Il y a une énorme nouvelle, comme un mini-roman qui s'appelle Mélodie. C'est la deuxième du recueil, qui narre le trajet d'un père divorcé jusqu'à la maison de son ex-femme et de sa fille pour l'anniversaire de la fille. On parlera peut-être de cette nouvelle un peu plus longuement plus tard, mais il y a des descriptions de la frénésie, de ce qu'elle appelle le frénétique combustible d'anniversaire. Je trouve ça absolument génial. De petite fille en folie dans le jardin, jouant à Kolamaya. Elle a même cette création, la chorale démoniaque Ketchou moutarienne. Et on voit tout ce qu'il y a de poisseux, de collant et de parfois déplaisant dans ces situations, sinon évidemment à part ça, extrêmement joyeuses. On est là dans des récits qui sont parfois franchement dystopiques ou fantastiques. Et c'est le propre de la nouvelle et c'est le propre de son écriture à elle aussi, des situations qui restent très souvent en suspens. Elle ne déplie jamais entièrement ce qui va se passer. On n'en saura pas plus. Si un inconnu vous aborde, c'est l'histoire d'une jeune femme à qui on donne un paquet dans un aéroport à transporter dans l'avion. Ce qui arrivera au paquet à la jeune femme, on va pas le déflorer, mais reste un grand mystère qui persiste, même une fois la nouvelle achevée, sur ce qu'il y avait à l'intérieur du paquet. Un jeune homme rend visite à sa future belle-mère avec une fiancée bien plus âgée que lui, dans une nouvelle que j'ai trouvée absolument époustouflante, un espèce de micro-chef-d'œuvre dans un parc à Mobile Home en Floride. Et pareil, alors que la situation devrait être plutôt joyeuse, il y a quelque chose d'extrêmement perturbant qui se développe. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui va arriver d'inquiétant à ce jeune homme. On a l'impression que tous les retraités vont se jeter sur lui pour le dévorer. Mais tout cela ne nous est pas montré. Et je trouve qu'il y a une maîtrise absolument exemplaire dans le suspense et dans ces situations, comme je disais, banales, apparemment normales. Et toujours, il y a un personnage, je crois que c'est dans Mélodie, qui résume assez bien le cadre des nouvelles de Laura Kosciuszko, à savoir, voilà, dans ces petites banlieues très ordinaires, on pourrait un jour retrouver un cadavre sous une bâche sans que personne n'y trouve rien à redire, sans qu'on trouve rien à redire non plus sur les voisins. Mais voilà, il y a ce cadavre au milieu de la rue.
Alors, je sens que vous avez très envie de continuer à en parler, mais vous le ferez dans un instant, Elisabeth Franck Dumas. C'est un peu vos camarades de jeu à participer à cette dispute. Lucille Como.
Oui, alors moi, c'est une découverte absolue, assez éprouvante, je dois dire, dans la succession, quand on lit d'un coup. D'ailleurs, c'est des nouvelles qui ont été publiées, je crois, les unes après les autres, certaines dans des journaux. Je pense que c'est presque plus intéressant de les lire, peut-être d'en lire une seule, plutôt que de les lire les unes après les autres, parce que justement la succession annule un peu les effets de surprise et d'étrangeté qu'on peut avoir au départ, parce que quand même on comprend assez vite quels sont les outils qu'elle utilise au niveau de la narration, les motifs qui reviennent. Il y a des motifs qui reviennent vraiment systématiquement, les sœurs mortes dans des conditions violentes, qui sont souvent donc des petites sœurs, les enfants morts de manière générale, les chiens qui en fait aurait peut-être disparu ou alors n'existe pas depuis le début. Enfin, il y a quand même des motifs qui reviennent et du coup, je trouve que la lecture de ce point de vue-là est presque un peu redondante. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les plus courtes, en fait. Vous parliez de Mélodie, justement, qui prend une grande partie du livre et qui, en effet, ressemble presque plus à un petit roman.
Une novella, quasiment.
Voilà, je trouve qu'elle perd un petit peu du coup par rapport aux autres nouvelles plus courtes en efficacité, et puis elle perd aussi à ce que les choses sont nettement plus explicitées, c'est-à-dire que le cadavre sous la bâche dont vous parliez, il amène une série de motifs, le cric, etc., qui indiquent de toute façon la chute, alors que je trouve que dans d'autres petites nouvelles, notamment Notre Père, moi je trouve que c'est une merveille, parce que là pour le coup totalement étrange, très dystopique, une histoire en trois pages de pères qui sont persécutés, chercher dans les maisons. Là, vraiment, c'est une très, très, très belle nouvelle qui me fait penser à ce qu'elle fait apparemment par ailleurs, qui est de la poésie, et qui me fait aussi penser à toute une tradition du poème en prose, même classique, quoi, baudelairien, avec ce mélange de la modernité, de l'épouvante, parce qu'elle utilise beaucoup ces ressorts-là. Donc voilà, vraiment, les petites nouvelles m'intéressent beaucoup et je les trouve saisissantes. Les plus longues m'intéressent moins et je trouve que l'accumulation de tout ça nous donne presque trop de clés. Vous disiez psychologie, fine, je trouve qu'à la fin, on comprend un petit peu ce qu'elle a dans la tête et cette étrangeté-là, elle se découvre peut-être un peu trop.
Raphaël Léris, premier regard sur ce recueil de Laura Kasiske, Si un inconnu vous aborde.
Alors, je partagerai le point de vue de Lucille sur la question de la succession, de l'ordre dans lequel on les lit, parce que, alors, je les trouve en majorité admirables, ces nouvelles, et je trouve que lire Laura Kasiske, c'est une espèce d'expérience physique où on a tous les sens en alerte, une espèce d'angoisse du corps qui se tend et d'un poids sur le plexus et de la respiration qui se ralentit. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ressens très fortement à chaque nouvelle que je lis. Et du coup, effectivement, la succession, l'effet s'amoindrit, alors que je pense qu'en les prenant les unes après les autres dans un tempo différent, permet de maintenir ça, ce qui est quand même quelque chose d'admirable de faire, de produire cet effet physique sur le lecteur à peu près systématiquement. Je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé Mélodie. Alors, effectivement, je comprends ce que vous dites sur le fait que peut-être qu'elle déplie plus dans ses textes.
Donc, c'est la plus longue, très nettement, hein, vraiment beaucoup plus longue.
Voilà, et qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a une manière de fonctionner de la narration dans les nouvelles les plus longues qui consiste à revenir à chaque fois sur une histoire antérieure. Et donc, il y a une forme de systématicité, même si ça me paraît quand même un bien grand mot pour un auteur aussi étonnant. Néanmoins, moi, il me semble qu'elle parvient quand même, en maintenant en permanence le mystère sur les motivations de ces personnages, à avoir cette psychologie fine qui consiste à dire eh ben, on ne sait pas tellement ce qui se passe dans la tête des gens. Et ça, dans ses romans comme dans ses nouvelles, je trouve que c'est la marque de Kasiske, et c'est ce qu'elle fait magnifiquement. Et l'inconnu qui vous aborde, eh bien, généralement chez elle, c'est soi-même ou ses enfants, mais c'est quand même généralement soi-même.
L'inconnu, juste pour dire, pour contredire un peu ma camarade Elisabeth, moi je trouve que ça se finit tout à fait, et que s'il y a vraiment une nouvelle qui est bouclée, c'est celle-ci au contraire, mais elle est plutôt d'ailleurs bien bouclée. Voilà, je redirais aussi, comme Lucille, que je conseille plutôt d'en lire une par semaine, ça peut être bien comme ça. C'est vrai que c'est toujours compliqué les recueils de nouvelles, quand les nouvelles ont été écrites de façon éparse pour différents magazines ou autres publications, ce qui est le cas ici. Et de fait, les plus courtes, comme Tu vas mourir, ou encore mieux le don est l'histoire d'une... C'est l'histoire d'une vie, hein. C'est une vie, mais trois pages et demie. Comment une petite fille pense, et certaine même, d'avoir un don. Comment elle va s'employer toute sa vie à ne pas l'utiliser jusqu'au moment où elle décidera de le faire. Je reste évidemment énigmatique pour ne pas déflorer le plaisir des auditrices et auditeurs. Et j'aime cette concision. Notre père, c'est peut-être pas ma préférée, parce que la dimension dystopique, moi, je la sens moins à l'aise quand même, Laura Kasiske, dedans, Elisabeth Franck.
Oui, moi, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est plutôt celle que j'ai moins aimée, parce que c'est celle dans laquelle, évidemment, on se projette moins. Moi, ce que j'adore avec les personnages de ces nouvelles, c'est que pour pas mal d'entre eux, en fait, je me suis, pour ma part, pas mal identifiée. Je trouve qu'il y a une... Parce qu'à chaque fois, ce sont des situations extrêmement banales.
Il y a beaucoup de filles et des pères aussi. Hein.
Oui, mais si vous voulez, la femme qui laisse son enfant pour faire un voyage professionnel, tous les tiraillements qu'elle peut ressentir, il y a aussi énormément d'humour.
Ça vous rappelle quelque chose,
même,
ça, oui.
Non, mais il y a quand même... Je trouve qu'elle fait mouche... Enfin, elle arrive à rendre ridicule, je dirais pas méchamment, mais enfin quand même, ces personnages un petit peu... On se reconnaît dans ce ridicule-là, assez souvent, voire dans les petites névroses, enfin petites ou moins petites névroses. Et donc, ce qui fait que c'est plutôt les nouvelles, je dirais, les plus en prise avec la réalité immédiate qui me semble extrêmement réussie, parce que justement, il y a ce facteur d'identification. Et puis, il y a, je suis entièrement d'accord avec Raphaël Léris, il y a un jeu sur les sens. Alors déjà, nous, on a tous les sens en éveil, mais je trouve qu'elle écrit avec absolument tout. Louis est très... Enfin, il y a des lignes téléphoniques qui bourdonnent, des bruits étranges que d'autres n'entendent pas et qu'elle entend. Une fille dans la chevelure sur la viande hachée, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin, il y a des trouvailles, l'odorat est généralement très développé, il y a des trouvailles absolument géniales et qui, je pense, nous plongent dans ce bain un petit peu étrange. il y aurait un risque d'observer tous ces personnages comme à travers un microscope. Voilà, des petits insectes qui se débattent parce qu'ils sont toujours en lutte avec un truc un petit peu plus grand qu'eux, que ça soit la société, leur névrose, le destin même. Enfin, voilà, on les sent tout petits qui butent contre une force plus grande qu'eux. Et je trouve qu'elle ne cède pas à la tentation d'en faire des petits insectes sous la lentille d'un microscope, justement parce qu'on peut se projeter dans tout ce qui leur arrive assez bien.
Lucile, comment ?
Oui, c'est surtout sur l'humour que je voulais rebondir, parce que ça, je trouve que c'est quand même de ces très grandes qualités d'écriture, et ça me fait aussi penser à Baudelaire, cette manière d'humour noir, espèce de cruauté un peu drôle tout le temps. Et surtout, ce que je trouve drôle, c'est qu'elle se caricature elle-même à de nombreuses reprises. Je vais juste lire un tout petit passage. Dans une des nouvelles, il y a une femme qui récupère le chien de sa voisine, donc sa voisine qui elle-même a été découpée en morceaux. Et donc, à ce propos, un genre d'amour se développa entre eux, pareil à celui d'une mère et de son enfant, surtout après l'accident et les mois de rééducation, Buttons, le chien, étant devenu sa seule source d'affection, son seul compagnon, d'autant plus que sa sœur, qui avait refait surface pour l'aider à se remettre sur pied, avait péri dans l'explosion de son téléphone portable devant une école primaire. Les morceaux de son corps déchiqueté avaient plu par millions sur les enfants hurlants qui se précipitaient dehors pour retrouver leurs parents. Ça, c'est vraiment, elle a condensé tout, presque tout ce qu'elle peut faire par ailleurs de cruel dans un paragraphe, comme une manière de dire « Regardez, je sais très bien ce que je fais ». Ça, je trouve ça très drôle.
Raphaël Léris.
Oui, moi je voudrais revenir sur l'écriture et sur le génie des images de Laura Kosciuszko. Elisabeth Franck-Dumas soulignait leur étrangeté, mais il y a aussi l'évidence avec laquelle elle s'impose ces images. Je pense notamment à une phrase dans la nouvelle Monument aux morts qui est « La naissance avait été si simple pour ses enfants, une tasse qu'on remplit d'eau ». Et je trouve ça extraordinaire. Comme dans Mélodie, le ciel était limpide comme du gin, comme un verre de gin. Je trouve ça magnifique et d'une intelligence et d'une évidence. Enfin, on se demande comment c'est pas devenu des clichés, tellement c'est de la poésie forte qui s'impose et qui nous rappelle que voilà, Laura Kosciuszko, c'est d'abord une poétesse aux États-Unis, c'est comme ça qu'elle est reconnue. Elle a eu le National Book Critic Award, je crois, pour ses poésies, alors qu'elle est assez peu lue comme romancière, à l'inverse d'ici. Et ses nouvelles, en fait, nous permettent de les combiner.
On n'a qu'un recueil de poèmes traduits, voilà. Encore une fois, je n'ai pas la page, et c'était que l'année dernière.
Magnifiquement traduite, comme toujours, par Céline Leroy.
Ouais. Qu'on salue au passage. Mais il y a des phrases, enfin l'entame des prisonniers, une fille se réveilla et c'était l'été. Bon, il y aurait presque plus rien à ajouter. Bon, il y en a trois pages qui suivent, mais il y a ces fulgurances d'écriture-là. D'accord.
Oui, c'est très vrai qu'on sent la poétesse à chaque page et dans ces images absolument magnifiques et évidentes. C'est très juste.
Dernier mot, Lucile Como.
Oui, à lire peut-être doucement, quoi. C'est vrai
que Mélodie, on se dit à un moment que le personnage va avoir une crise cardiaque, il fait chaud, il marche dans le bitume comme s'il s'enfonçait, et puis nous-mêmes, on se dit, moi aussi, je vais avoir une crise cardiaque avant ce personnage, alors que finalement, il ne se passe rien de bien inquiétant.
Moi, je proposais une par semaine.
Voilà.
La prescription du docteur.
Non, c'est bien. Peut-être pas le dimanche matin. On va plomber la journée. Mais le dimanche soir, pour être bien. Une par semaine, et puis à renouveler au besoin. Laura Kosciuszko, si un inconnu vous aborde, c'est traduit donc, en effet, très bien par Céline Leroy, et c'est publié chez Page à Page. À suivre dans la dispute, Odur, Ava, Olaf Stottir et Jonathan Dee.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Pour la suite de cette émission consacrée ce soir à la littérature, c'est comme ça qu'on dit, un roman de l'Islandaise Odur Ava Olafsdottir, le cinquième publié par les éditions Zulma, le premier que moi je lis, mais vous disiez Raphaël Léris combien Rosa Candida, qui avait eu un fort succès dans son pays, on a eu aussi dans le
en
nôtre.
En France, très important, oui.
Bon, eh bien, je me rattrape. Or, alors, comme il y a un tréma sur le O, il faudrait qu'on dise UR.
Peut-être.
On va dire OR, parce que ça écrit OR et qu'on va nous entendre. Et si on veut aller chez son libraire demander OR, ce sera plus simple. Il est traduit par Catherine Ejolfsson et il a reçu ce livre, écrit-on sur la quatrième de couverture, le prix le plus prestigieux de la littérature islandaise. J'aurais bien aimé connaître le nom de ce prix, mais je vais peut-être chercher.
Je crois que je l'ai lu quelque part, franchement, je pense que...
Ah, c'est pour ça, ouais. D'accord. Je comprends, c'est un peu comme le volcan, c'est ça
voilà,
que je voulais dire.
Exactement.
D'accord, donc le prix le plus prestigieux pour la littérature islandaise. On va suivre un homme, bientôt 50 ans. On peut dire une bonne crise de la cinquantaine, on pourrait le dire comme ça.
Between yesterday and tomorrow, there is more than a day. Between day and night, between black and white, there is more than gray. Between the question and the answer, there's the silence of the sea. Between the cradle and the grave, there is the someone that is me. Between yesterday and tomorrow, there is more than a day.
Y a-t-il quelque chose que j'ai encore envie d'essayer? Rien qui me vienne à l'esprit. J'ai tenu dans mes bras un nouveau-né, rouge et visqueux. J'ai abattu un arbre de Noël dans un bosquet de conifères en décembre. J'ai appris à une enfant à faire du vélo, changé un pneu seul la nuit sur une route de montagne en pleine tempête de neige, tressé les cheveux de ma fille, roulé dans une vallée polluée pleine d'usines à l'étranger. J'ai été ballotté dans le dernier wagon d'un petit train. J'ai fait cuire des pommes de terre sur un réchaud à gaz en plein désert de sable noir. Je me suis colleté plusieurs fois avec la vérité, là où les ombres sont tantôt longues, tantôt courtes. Et je sais que l'homme peut rire et pleurer, qu'il souffre et qu'il aime, qu'il est doté d'un pouce et qu'il écrit des poèmes. Et je sais que l'homme sait qu'il est mortel. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Écouter le gazouillis du rossignol? Manger du pigeon blanc? Le genre d'interrogation que se pose notre personnage principal dans Or, d'Odur, Alla, Ava, Olafsdottir. Là, c'était assez loin dans la lecture avec cet extrait qui n'est pas celui qui ouvre le livre. Moi, c'est vraiment une belle surprise, mais j'y reviendrai. C'est Lucille Como qui va commencer à nous parler de ce roman.
Oui, puisque c'est donc un personnage qui a décidé d'en finir. Ça, on l'apprend assez rapidement au début du roman, qui s'appelle donc Or, le mot Or étant la cicatrice, et la cicatrice étant même plus qu'un motif, presque ce qui fait fonctionner le livre, ce qui le programme. La cicatrice qui est la cicatrice physique de la blessure, on va rencontrer un certain nombre de personnages qui sont blessés physiquement. C'est la cicatrice évidemment du coup de la tristesse et de la mélancolie, qui est une mélancolie finalement pas si définie. C'est un homme qui vit plutôt bien, qui a une fille, qui a une femme, bon, qui l'a quitté certes, mais avec qui il a des relations à peu près normales, et il a sa mère aussi qu'il voit beaucoup.
Les trois goudrounes.
Voilà, les trois goudrounes.
Ça s'appelle toutes
les
trois
goudrounes. Et puis, c'est aussi la cicatrice géographique, topographique d'une ville qui sort de la guerre, ce qui est une deuxième partie du livre, puisque le roman est vraiment divisé en deux parties.
Chair et cicatrice.
Ce qui est dangereux, mais ce qui, moi, je trouve, fonctionne assez bien. Moi, je trouve que c'est une découverte aussi totale. Je connaissais pas du tout son précédent roman. C'est un roman qui est très délicat. Au début, le personnage se fait tatouer un nymphéa sur le cœur. Et je trouve que la fleur, le nymphéa, c'est une image qui pourrait décrire assez bien presque la texture, la matière de l'écriture de cet auteur. L'action, elle éclot toujours très doucement. La dépression, c'est quelque chose de très fin, de pas du tout plombant. Les personnages sont toujours très tendres malgré la violence, parce qu'il y a de la violence, il y a même de la violence physique de la guerre. Moi, ça m'a beaucoup émue parce que je trouve que c'est un traitement de la dépression et du suicide que je n'ai jamais vu ailleurs, je crois, ni au cinéma, ni dans les littératures. Quelque chose de doux et surtout de réversible, et ça, on le sait depuis le début. Et je trouve que c'est, de ce point de vue, on pourrait penser à une forme de naïveté, finalement, ça ne l'est pas. C'est simplement de la délicatesse et c'est beau.
Écoutez, je ne sais pas si je vous redonne la parole après cette phrase assez définitive, mais fort belle. Raphaël Léris.
Alors, je suis un peu moins enthousiaste. Je trouve que ce livre, j'abonderai dans le sens de Lucille Como sur la délicatesse, et je trouve que le début sur l'envie de suicide du personnage principal est assez fort dans la simplicité dans laquelle il évoque l'envie de mourir. Voilà, il n'en fait pas un drame. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez réussi et que ça part plutôt bien. Et puis après, et assez vite, quand Jonas va partir pour ce pays en guerre, il y a un syndrome, au lieu de te plaindre, pour son enfant qui meurt de faim, que je trouve un petit peu difficile.
Comme vous y allez.
Bah, que je trouve très moralisateur. Et du coup, comme l'image de la cicatrice, alors, qui parcourt le texte et qui le structure, elle est tellement assénée à un moment donné que, je ne sais plus quoi faire de cette cicatrice. J'ai envie de la pas tatouer. Enfin, donc on a décidé de garder or sur la couverture. Sans doute parce que si on l'avait appelée cicatrice en français, ça montrait à quel point c'était asséné. À la fin, on a une note de l'auteur qui nous explique, au cas où ça nous aurait échappé, que or ça veut dire cicatrice et qui décrit toutes les.
Oui, mais c'est plus sens. Que cicatrice au sens français. C'est pour ça qu'ils ont gardé or. C'est que le mot islandais est plus riche.
En effet, mais dans le cœur du texte, ça nous est aussi expliqué que les cicatrices ne sont pas que celles du corps, de l'appendicite, de la césarienne, tout ça. Donc, à la fois, je reconnais une délicatesse dans l'écriture et la simplicité avec laquelle est explorée la dépression qui part bien. Et en même temps, je suis assez perplexe devant cette espèce de morale de remets-toi de tes petits problèmes en allant dans un pays en guerre avec ta boîte à outils pour réparer les endroits qui vont pas bien.
Bon, on peut pas dire que vous ayez trouvé ça très fin. Effectivement, il y a le nom du prix littéraire sur le rabat de couverture, donc je ne me risquerai pas. Il y a beaucoup trop de syllabes. Beaucoup trop de syllabes. Alors, Elisabeth Franck Dumas.
Oui, alors c'est un livre où il est...
Où vous placez-vous ?
Il est en effet beaucoup question de tatouages, de cicatrices et de peau. Et alors moi, ce livre a provoqué une réaction épidermique chez moi.
Très bien.
Voilà, j'avais envie de le dire. Vraiment. Beau. Et alors, dès le début, contrairement à Raphaël Léry, c'est-à-dire qu'il m'a pas fallu attendre les passages extrêmement moralisateurs, je me suis arrêtée au style précieux, démonstratif, exagérément explicatif. Le parcours est fléché à chaque minute. D'ailleurs, il y a un nombre de parties, de sous-parties, de numéros et d'entêtes, d'entêtes de chapitres qui, je vais en lire une ou deux.
Non, il n'y a pas de numéro, il y a des incises.
Voilà, il y a des petites incises qui pourraient.
Il n'y a que deux chapitres.
Elles-mêmes, finalement, être inscrites comme des tatouages. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces petites maximes qu'on s'inscrit sur le corps, je vous en cite deux au hasard.
Non, l'état, c'est pas au hasard, je suis sûr.
L'état, là où le lent suicide de tous a pour nom la vie. Ah. Pour plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits au regard de ceux qui ne savent pas voler. Certes. Je sais pas.
Non, à charge. Vous savez que ça vaut un blâme normalement.
En plus, je suis désolée. Dès la troisième page, numérotée 19, mais c'est la troisième page du livre, il y a des phrases qui ne veulent rien dire.
Ah, allons-y.
Surpris par mon choix, il n'en montre rien. Ah, mais s'il n'en montre rien, comment est-ce que le personnage sait qu'il est surpris par le choix ? Rebelote. Il me considère d'un air grave qui ne laisse pas deviner son degré de contrariété. Alors, ça laisse pas deviner son degré de contrariété, mais le personnage le sait quand même. Alors ça arrive à la troisième page, donc déjà, il y a de quoi énerver. Et après, tout le reste est du même tonneau. J'ai trouvé ça absolument impossible de m'intéresser à ce personnage qui est tellement factice et créé de toutes pièces et à tout ce qui lui arrive. Chaque mention j'ai horreur de la violence depuis qu'il a essayé de m'entraîner voir Die Hard 4 au cinéma. Je sais pas, tout est fait avec une lourdeur. Vous parlez d'un style délicat. Moi, je suis passée à côté.
Non, pas voilà. À côté. Vous êtes rentrée dedans, mais avec un bulldozer.
Il est sorti assez rapidement. Je n'ai pas compris. Voilà. Ben,
non, mais que l'auteur écrive surpris par mon choix, mais ça, c'est une figure. Il n'en montre rien. Enfin, je suis pas sûr de la pertinence de l'exemple.
Ah non, mais comment est-ce que le personnage, pardon, alors on va s'arrêter là-dessus. Comment est-ce que le personnage peut savoir que le tatoueur est surpris par son choix s'il n'en montre rien ? Comment est-ce que le personnage sait qu'il y a un degré de contrariété alors que lui-même dit d'un air grave qui ne laisse pas deviner son degré de contrariété ?
Ah si, parce que le héros perçoit la chose tout en voyant que le personnage en question ne veut pas montrer qu'il
y a vraiment des phrases totalement illogiques, je trouve que
c'est une lecture à charge.
C'est écrit avec les pieds.
Bon, moi j'ai beaucoup aimé qui a reçu le prix, je ne me lancerai pas. Alors, peut-être même pour les raisons qui pas celles qui vous ont exaspéré, vous, Elisabeth Franck Dumas, mais peut-être celles qui vous
les
ont...
Les petites maximes de tatouage, les petites...
Mais c'est pas, ce sont pas des maximes.
Mais ce sont des titres, par ailleurs.
Il y a des enfin, titres, des reprises.
Oui, oui, non, mais elle le dit, mais ça se dépose là, comme de
mais
rien.
Non, moi, je les ai vraiment lus comme des titres. Hein.
Ouais.
C'est vrai, ça m'a pas du
qui
tout...
Qui sont soit des reprises, soit des amorces, soit des échos, ouais. Enfin bon...
Ah non, mais le parcours est fléché à chaque minute. Le
lecteur... Fléché vers quoi?
Mais
c'est la rédemption, la voie de vivre.
Ouais.
Oui.
Mais c'est pas particulièrement fléché. Moi, par exemple, le côté moralisateur dont vous parliez, Raphaël, je le sens pas du tout pour la bonne raison que la fameuse vie longue. Déjà, il y a aucun enfant qui meurt de faim. Il s'occupe absolument pas d'enfants qui meurent.
Non,
de faim.
Je parlais d'un syndrome. Je ne disais pas.
Oui, mais du coup, ça fonctionne pas parce que non, mais parce que cette ville-là, elle n'existe pas et que tout est fait pour nous le dire qu'elle n'existe pas. Ce sont des personnages qui sont presque à l'état de fantômes. L'hôtel s'appelle l'hôtel Silence et c'est
quand
un
on
n'est
pas sûr de savoir si on a transporté Mick Jagger ou David Bowie.
Oui,
on voit bien que
c'est un pays.
On est au pays de Candy.
Avec des lieux dont la topographie est totalement floue. Donc en fait, c'est totalement métaphorique comme refuge, entre guillemets, pour le personnage. Donc le côté moralisateur, on se soigne en aidant les autres. Alors vraiment, moi, je ne l'ai pas du tout vu. À la limite, on se soigne en réparant des choses à l'extérieur de soi. Je vois ce que vous pouvez dire là-dessus, parce qu'il y a un côté extrêmement naïf, et ça, je l'ai
mais ça, c'est toute
début.
Sa vie, parce
je
que dans
c'est...
sa vie islandaise, voilà, c'est déjà ça. Le cas. Sa femme lui laissait l'ampoule grillée dans le couloir. C'était ça, les échanges avec sa femme. Il n'y a rien de nouveau. Il transporte ailleurs, dans un ailleurs effectivement qui on projette ce qu'on veut, ce qu'il était déjà là, chez lui. Enfin, il n'y a pas de. J'ai pas senti non plus ce côté Miss France là que vous pointez. Non
surtout, vous voyez le côté. J'ai été élevée chez les sœurs, donc ah. On m'a dit mange en pensant aux enfants qui meurent de faim.
Ah oui, non, bah, non, j'ai mais, pas eu ça moi.
Non, mais
Raphaël Léris.
Donc il y a ces passages en majuscules dont parlait Elisabeth Franck Dumas qui assènent les choses comme le titre assène les choses, comme la récurrence de la métaphore et elle apparaît et elle est soulignée et elle est sur-soulignée. Alors réparer des choses à l'extérieur de soi, mais dans un pays en guerre, vous trouvez que c'est pas plus ou moins la même chose. Enfin, vous trouvez que c'est plus ou moins la même chose que de réparer des choses dans sa maison et donc on va mieux en réparant des choses n'importe où.
Bah, je pense que c'est pas ça qui fait qu'il va aller mieux. C'est une histoire de rencontre, mais on va pas tout raconter ici. C'est plutôt s'ouvrir à une possibilité de rencontre,
non,
alors qu'il
fait,
était complètement fermé.
Surtout, le terrain de la morale, pour moi, n'est pas un terrain de discussion pour ce livre. Je trouve même pas qu'on peut s'aventurer sur la question de la guerre. Enfin, ça me paraît pas du tout être le sujet. Donc, du coup, j'avoue, j'ai du mal à en parler.
Mais pour moi, c'est vraiment une fable quasiment enfantine. Alors, effectivement, je comprends bien que la guerre est métaphorique, néanmoins, je vois pas ce qu'elle est censée recouvrir, et donc je vois pas ce qu'on nous dit d'autre que si ça ne va pas, fais quelque chose de ta vie d'utile.
Elisabeth Franck Dumas.
Ah non, moi j'ai pas. Alors je suis d'accord avec Lucille Comeau sur le fait qu'il y a quelque chose de très métaphorique, mais justement pour moi c'était beaucoup trop métaphorique. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. J'avoue, je suis désolée à la discussion parce que vraiment c'était épidermique. C'est pas seulement le propos, moi c'est vraiment le style. Ce mélange de précieux et de démonstratif qui m'a irritée dès les premières minutes.
Ah, c'est drôle parce que justement, moi j'aime bien, j'ai l'impression que ça avance tout doucement, tout délicatement. Je ne vois pas du tout de démonstration. Je vois au contraire une écriture un peu comme ça du quotidien, d'accumulation de petits détails qui font naître chez moi un personnage, des lieux, des situations. Et pas du tout ce que vous appelez là démonstratif qui pourrait me déplaire foncièrement si je l'avais perçu. Je vois à peu près l'inverse. C'est très étrange. Vous êtes sûr qu'on a le même livre, en fait? Attendez, on a chacun un exemplaire. C'est le même.
Non, c'est bien le même.
C'est or. Vous voulez dire un dernier mot, Lucille Comeau?
Non, mais je comprends tout à fait par ailleurs les réserves justement sur le côté métaphorique et sur la naïveté. Ça,
ah oui, ça
je le comprends. Mais pour moi, c'était une. Et ça m'étonne de moi-même. c'est une naïveté que j'ai trouvée plutôt bien amenée, qui s'assumait et donc du coup que je trouvais belle. Voilà.
Bon, belle. C'était beau tout à l'heure et là ça finit avec belle. Pour ce livre d'Odur Ava Olafsdottir, juste pour savoir, vous aviez lu celui dont vous parliez tout à l'heure, Rosa Candida.
Rosa Candida.
Et alors, il était très différent
non,
ou pas?
Non, c'était un voyage
pénible.
Initiatique. Non, mais c'est le voyage initiatique, c'est très très récurrent chez Olafsdottir. Et c'était très naïf. C'était Rosa Candida était évidemment empruntée à Candide. Donc on était vraiment dans la fable philosophique. Mêlé avec de la poésie sur les fleurs, alors on est sensible ou pas, quoi.
D'accord, donc vous non, hein, on va dire ça comme ça. Bon, donc celles et ceux qui aimaient déjà Odur, Ava, voilà. Olafsdottir avec Rosa Candida devraient apprécier.
Tout à fait.
Or ou Ur, publié chez Zulma dans une traduction de Catherine Ejolfsson.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute littérature, c'est Ceux d'ici, de Jonathan Dee, publié chez Plon. Dans une traduction d'Elisabeth Pellart, l'action se déroule à Howland, petite ville du Massachusetts. C'est une ville qui va être transformée par l'arrivée de Philip Addy, venant de New York, qui va s'installer dans la maison voisine de Mark, qui lui est bien du cru et qui est entrepreneur en bâtiment.
July had a firecracker waiting to blow, breaking like a rifle. Who was making his way to the cities of Mexico? Lived in an apartment out on Avenue A, had a tar on a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold, but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play any games with me anymore like she did before. That would fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed that I didn't lose that on a loop of the place. When I was drunk and I was thinking of you. Every day the children, they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. You used to take the subway on the house and the third. I would wait for you and not try to hide. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. World won't wait, watch you shake. But honey, I don't blame you. Hell, I still love you, New York.
Celui-ci de Jonathan Dee. Alors, il faut raconter que vous avez lu presque deux fois ce livre, Raphaël Léris, puisque j'ai essayé de relayer sur les réseaux sociaux votre SOS.
Merci à vous.
Vous avez perdu le premier exemplaire complètement annoté dans un square.
Dans un square.
Est-ce qu'on a aidé de lire dans un square?
On aimerait tellement.
Au mois de décembre. C'était le seul jour de décembre où il a fait beau, ou à peu près. Donc vous avez repris?
Je l'ai repris, je l'ai relu.
Dans ces cas-là.
Vous voulez vraiment trucs et astuces, j'en ai relu une partie sur le PDF. Je me suis fait envoyer le PDF pour pouvoir faire une lecture rapide. Et puis après, j'ai récupéré des bouts, voilà, je me suis souvenu de mes notes, j'ai relu des passages.
Parce que c'est pas un petit livre, hein.
Ça devait être un petit livre.
C'est
non.
Quand même un sacré pavé. Au-delà de cette mésaventure, Raphaël.
Absolument passionnant.
Quel premier regard sur celui de Jonathan Dee?
Alors, Jonathan Dee, on l'a découvert en France en 2011 avec un roman qui s'appelait Les Privilèges, qui était un livre très étonnant autour d'un couple new-yorkais, beau, amoureux, ambitieux, qu'on voyait avancer dans la vie en allant toujours plus haut, en se distanciant toujours plus des règles du commun.
Ça me rappelle 600 autres livres américains, non?
Sauf que, la différence, c'est qu'on attendait la chute, et elle ne venait jamais. Et c'était un roman génialement sans morale.
Ah!
C'était l'inverse vraiment un traitement
de l'Olafsdottir.
Voilà.
Vous n'aimez pas les morales, c'est tout.
Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on l'a découvert et qu'il s'est attiré en France des lecteurs énamourés, dont moi.
D'accord. Moi,
voilà.
C'est dit.
Alors, ce d'ici, c'est l'inverse des privilèges. C'est-à-dire que on a au cœur de ce livre un couple, Marc et Karen, dont la toxicité du mariage semble tout contaminer et qui, quand les personnages des privilèges se regardaient grimper comme ça en s'aimant et en continuant à se désirer, leur couple est témoin du ressentiment qui gagne chacun des personnages, puisque pour moi, donc celui-ci, c'est un grand roman sur le ressentiment américain. Et autant dans les privilèges, ce qu'on désirait était à portée de main, autant là, tout semble toujours loin. Et la figure du milliardaire qui s'installe dans cette ville du Massachusetts, donc elle est centrale, mais uniquement comme ce personnage qui symbolise tout ce qu'on n'aura jamais et tout ce dont on rêvera. Donc ce d'ici s'étale sur 10 ans, il commence le 11 septembre par un chapitre très étonnant raconté par un personnage qu'on ne recroisera jamais, qui s'est fait avoir par un artiste de la fraude qui est lui-même un sacré marlou, si je puis me permettre cette expression.
Comme vous y allez.
Et qui, le 12 septembre, se retrouve dans le bureau d'un avocat et là rencontre Marc qui lui-même s'est fait avoir. Et puis... on coupe et on passe après, on retrouve Marc dans son terreau de village américain et on va aller juste avant Occupy Wall Street. Voilà, donc sont ces quasiment 10 ans qui sont racontés par ce livre. Et donc on passe d'un état d'esprit qu'on imagine de ferveur, de solidarité, de ça plus rien ne sera plus jamais comme avant parce que nous serons très très proches, jusqu'à un pays où les gens ne peuvent plus supporter, où la haine de chacun pour l'autre sort comme ça de manière éruptive par des blogs, notamment par le biais des blogs. Et donc c'est un roman qui raconte voilà ce délitement de ce qu'on a pu penser être une grande solidarité américaine. Donc c'est un roman qui n'est pas confortable à lire, mais je ne crois pas que les feel good books soient en soi une qualité. C'est pas du tout un feel good book, mais pour moi c'est un livre assez vraiment intéressant qui nous raconte vraiment ce qu'on a vécu, je pense, au cours des dernières années.
Bon, je suis pas sûr de savoir exactement ce que vous en pensez encore. Hein, vous en gardez un peu. Sous le coude, sacré marlou, va. Elisabeth Franck Dumas sur Jonathan Dee et ceux d'ici.
Oui, alors ce qu'on a vécu, je ne sais pas, mais en tout cas ce que les États-Unis ont vécu très certainement, je trouve que c'est un extraordinaire portrait de l'Amérique post 11 septembre, pré-subprime, entre guillemets, et qui est incroyablement annonciateur, je me demande quand il l'a écrit, qui est annonciateur de cette Amérique, qu'on a appelée l'Amérique des petits blancs qui ont élu Donald Trump. Il y a pas mal de personnages, de figures dans ce livre qui rappellent des trolls ou militants d'extrême droite derrière Trump. Vous parlez de ressentiment et il y a surtout quand même, je trouve que l'utilisation du personnage, c'est pas un livre, bon c'est un roman choral qui circule en fait, il y a un flux de conscience qui circule parmi un très grand nombre de personnages, d'habitants de cette petite ville, par la tête de tout le monde, sauf d'ailleurs la tête du milliardaire, on va dire, parce que ce milliardaire est en fait un lieu de projection, de fantasmes, de ressentiments, et le fait qu'il reste opaque est très bien vu. On circule comme ça, il y a des longueurs, il y a une fin que j'ai pas trouvée extrêmement convaincante, mais je trouve que c'est vraiment un livre qui mérite d'être lu pour ce portrait de cette Amérique-là. Et je trouve que même le personnage de Philippe Addy, qui finalement ne croit pas à la démocratie, qui ne croit pas à l'État en général, il y a une défiance de l'État qui circule. Bon, ça c'est un grand thème américain, mais qui quand même, là je trouve qu'on en arrive à une exaspération de ce sentiment-là aux États-Unis, comme dans le livre qui est assez finement rendu. Les guerres culturelles aussi, par de toutes petites notations, que ce soit des séries télé où des personnages vont relever des choses dans la culture qui leur est servie et contre laquelle ils vont se dresser. Enfin, tout ça est admirablement bien fait. Jusqu'au personnage donc de Philippe Addy, qui ne croit pas à la démocratie, à l'État, et qui pourtant va devenir maire de cette petite ville, va en prendre le contrôle. Et ça aussi, j'allais dire, ça rappellera des choses. Enfin, ça anticipe pas mal de choses. Je trouve que c'est un livre, pour ça, assez visionnaire et dont la construction étonnante, notamment ce très long prologue, mais ce prologue qui annonce ce qui va venir, qui montre bien que la solidarité post-septembre, dès le début, elle n'était pas là, puisque lui va chercher à arnaquer quelqu'un dans les heures qui ont suivi. Je déflore pas grand-chose, parce que c'est les premières pages. Voilà, donc peut-être que je pourrais revenir sur quelques réserves après.
Absolument, et vous en aurez le temps. Moi, je n'ai lu que le début, hein, donc je vous écoute avec attention pour savoir s'il faut que je consacre quelques heures à la lecture de ce livre de Jonathan Dee, épais. Lucille Comeau.
Bah, le début est probablement ce qu'il y a de mieux pour moi dans le roman. J'aime beaucoup ce premier chapitre qui est en fait le chapitre zéro, ouais. Ce qui est intéressant ouais, puisqu'on oui. apprend assez vite. Donc c'est le 11 septembre et donc c'est un vrai ground zero au sens où c'est une base totalement dévastée sur laquelle va se construire toute l'instabilité du roman. Donc c'est une partie, il faut le dire, qui est à la première personne. Le style est très contrasté par rapport à ce qui suit. Il y a quelque chose d'assez violent de ce personnage instable qui instille quelque chose de dur à l'écriture, un personnage voyeur, un escroc, quelque chose de destructeur qu'on perd, moi je trouve, totalement après, puisqu'on enchaîne avec quelque chose de très classique, de roman américain très classique, sur, à mon avis, des sujets. Pour le coup, je ne sais pas, en effet, c'est une bonne question, quand est-ce qu'il l'a écrit, mais moi je trouve que c'est des sujets maintenant qu'on a beaucoup
entendu. Entre 2013 et 2016, je sais voilà. Il l'a rendu à son éditeur en août 2016.
D'accord.
Pour moi, ça ne m'a pas passionnée parce que justement, cette Amérique blanche qui probablement a voté Donald Trump, qui essaye de grappiller sur un peu tout pour essayer d'être plus exploiteur que son voisin exploité, tous ces thèmes-là ne m'intéressent pas tellement dans cette forme-là extrêmement classique du roman de mœurs, parce que je trouve qu'on les a par ailleurs beaucoup vus ou beaucoup lus dans les séries télévisées, au cinéma. Donc, je n'étais surprise par rien de ce qui arrivait au personnage et je trouve que c'est tout de même un peu long. Voilà, cette galerie de personnages, le côté roman choral, on passe d'un personnage à l'autre par un système de relais qui devient franchement systématique. Un personnage va en voir un autre, hop, on passe à l'autre personnage en question. Ça devient un petit peu long. Au bout d'un moment, on aimerait bien savoir où ça va. Et en fait, ça ne va pas à grand chose. C'est-à-dire que c'est à la fois démonstratif et pas méchant. Donc les personnages s'en sortent parce que l'espèce de cynisme du début, on le perd tout à fait, je trouve. Et les personnages sont plutôt épargnés finalement, alors que ce sont en effet des personnages sur lesquels on aurait pu se défouler, entre guillemets, comme le fait le premier personnage qui prend la parole. Donc ça m'a peu intéressée, assez ennuyée. Je reconnais qu'il y a une virtuosité dans le style, dans l'écriture, qui est pas très bien rendue par la traduction. Alors on a des épreuves non corrigées, donc peut-être que ce sera corrigé, mais il y a des passages qu'on sent justement très très américains dans la langue et qui en français donnent pas grand chose. Voilà, je suis un peu déçue parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le début, notamment donc ce personnage est un personnage de voyeur, il monte sur un toit pour regarder les gens par la fenêtre, les regarder se déshabiller, les regarder faire l'amour, les regarder la télévision. Et je me suis dit, ah, ça c'est une bonne position de narrateur, il va s'appliquer ce programme à lui et faire un roman méchant sur l'Amérique profonde. Or, on reste un peu sur sa fin de ce point de vue, parce que ce n'est pas très méchant. Il y a quand même des personnages odieux, ce personnage de Gary, qui est donc un des frères de Mark, qui, vous en parliez Elisabeth, qui ouvre un blog contre Adi, et qui déverse sur ce blog, comme le font toujours beaucoup d'Américains de cette classe, entre guillemets, des propos sur ce que c'est que l'État, sur les impôts, sur le fait qu'on paye trop d'impôts pour pas assez de privilèges, etc. En fait, ça reste très 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 cliché et le propos qui est mené dessus n'est pas assez corrosif, pas assez méchant, trop classique pour moi.
Oh, Raphaël Léris.
Alors, vous trouvez qu'il n'est pas assez méchant avec ses personnages. Moi, je trouve que c'est justement sa force de narrateur qui n'est pas là pour nous venger, nous autres, qui sommes exaspérés par Gary ou par la mauvaise humeur des personnages ou qui avons envie qu'il se passe quelque chose qui nous vengerait de la longueur. Et moi, je trouve que justement, cette longueur, elle rend aussi la sensation du temps. Pour moi, s'il y a une chose qui est très réussie aussi dans ce DC, c'est la manière dont les années glissent sans qu'on s'en rende compte, sans qu'ils nous le disent précisément. Enfin, parfois, il nous dit une année, deux années. Mais ça, il me semble que c'est extrêmement virtuose, la manière dont il nous communique le passage du temps, les changements qui s'opèrent ou pas, et finalement plutôt pas chez les personnages. Et donc moi, en tant que lectrice, même si j'aimerais bien qu'il arrive des bricoles à Guéry, je trouve que c'est pas son travail de romancier de me venger de mon exaspération. Et je trouve que c'est plutôt son intelligence d'écrivain. Donc vous disiez que vous saviez pas ce que j'en pense. J'en pense beaucoup de bien de ce livre.
Bon. Vous disiez que vous le trouviez intéressant, ce qui est déjà une chose.
Non, mais... non, je le trouve intéressant et je l'admire beaucoup. Voilà, quand je disais qu'il est inconfortable, c'est que c'est pas un roman dans lequel on se roule de bonheur, quoi. Mmh. C'est un texte qui nous renvoie à la gueule, pardon, au visage, excusez-moi, qui nous renvoie au visage, beaucoup de violence. Et donc, on n'a pas forcément envie de les côtoyer, ces personnages, mais ça nous dit, une époque d'une manière que je trouve extrêmement forte, et donc il me semble que c'est un roman important pour comprendre dans quel monde on vit.
Elisabeth Franck-Dumas, sur les réserves de Lucille Comeau, peut-être aussi.
Oui, alors, moi je les trouve quand même tous extrêmement antipathiques, ces personnages. Je ne trouve pas qu'on soit gentil avec eux, je les trouve atroces. Et je trouve que c'est peut-être même le défaut, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, il n'y en a pas un qui fait montre d'un petit peu d'humanité, d'un petit peu de...
Lucille Comeau.
Par exemple, Guéry. Il le rattrape, ce personnage, il le rattrape avec une histoire d'amour. Il y a une sorte de tentation de toujours tout équilibrer.
Ah
ouais.
Ça vous le rend sympathique, l'histoire d'amour?
Bah, un petit peu. Ça le rend pas forcément sympathique, mais ça le sort de la première condition dans laquelle il était.
Non, il est certain qu'on se demande si on doit lui être reconnaissant ou non de finalement pas avoir été tenté par un grand feu d'artifice pour boucler tout ça. Non, mais vraiment, la question se pose, c'est-à-dire que ça se termine en pente déclivante, comme ça, d'où il y a quelque chose de très doux et de peut-être inachevé, pas inabouti, mais inachevé à la fin. Et on se demande s'il a eu raison ou pas et s'il faut lui en savoir gré ou non.
Après, il prépare ceux de là, la suite, non?
Après, moi, il y a quelque chose que je trouve formidable dans ce livre, c'est le rendu de ce que c'est qu'une existence civique. Enfin, qu'est-ce que la vie civique? Sur quoi ça repose? Le postier et son quotidien, le flic de la ville et son quotidien, les entrepreneurs. Je trouve que c'est quand même pas un sujet vraiment palpitant quand on le pose comme ça sur le papier, et il arrive à le faire exister, il arrive à montrer comment une société peut s'effondrer, comment la démocratie peut s'effondrer par toutes petites touches, pas en faisant une grande thèse, mais justement par des petits détails, des petites situations. Et je trouve que justement la modestie de ce qui déploie et l'absence là de grosses machineries par rapport à ce qui est en effet en train de se passer aux États-Unis crée un effet miroir que je trouve assez remarquable.
Lucille Comeau est en train de griffonner une réponse, des éléments de réponse. Pardon, je voudrais bien vous épauler là-dessus.
Je vois ce que vous voulez dire sur le côté à petite échelle. Ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir les institutions, les administrations de l'intérieur. En revanche, moi, j'ai l'impression que là-dessus, sa position, c'est vraiment une position de surplomb. C'est une position de moraliste. Enfin, pour moi, c'est un roman de mœurs avec un point de vue qui est un point de vue extrêmement moralisateur, extrêmement pessimiste, mais qui n'assume pas ce pessimisme jusqu'à la destruction. Je sais pas si je me fais comprendre.
Oui, oui.
En fait, moi, j'aurais envie que ça pète plus, entre guillemets. C'est-à-dire que le point de vue qui est, encore, je me répète, mais qui est le point de vue de ce premier personnage qui, en plus, dit « je », donc c'est ça nous le rend encore plus proche du narrateur. Ce point de vue-là, qu'on l'abandonne au profit de quelque chose qui, à mon avis, est un peu mou politiquement, ça me gêne, ça me gêne pas,
ça vous déçoit.
Ça me déçoit, exactement. Et de ce point de vue, la fin, qui est en effet quelque chose de très déclinant, de très déceptif, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est déceptif pour l'être, ou est-ce que tout simplement, il était un peu arrivé au bout de son sujet, et, pas d'explosion finale, mais bon, moi Bon, c'est écrit sur la jaquette, hein, l'un des meilleurs décrypteurs de l'Amérique contemporaine. À mon avis, déjà, c'est pas l'Amérique contemporaine, parce qu'en effet, c'est l'Amérique plutôt post-11 septembre. À mon avis, on en est un peu sorti. Et par ailleurs, sur le décryptage en soi, j'attends plus. Voilà.
Raphaël Léry, c'est sur la fin aussi. Est-ce que vous sauvez, vous?
Moi, je la sauve parce que ce qu'il raconte aussi par petites touches, donc c'est ce que disait Elisabeth Franck-Dumas, la manière dont s'effondre une société, mais c'est aussi la détestation des idéologies, le fait qu'on déteste la politique. Plusieurs personnages disent « Ah non, j'espère que c'est pas politique, j'espère que... Ah, s'il te plaît, ne me dis pas quelque chose de politique. » Donc, il parle de ça, il en parle très bien, je pense, et il nous dit aussi comment on arrive à une société qui, à force de refuser le politique, sombre dans une forme de fascisme. Et donc, cette espèce de pas de côté qu'il peut faire par rapport à une conclusion qui bouclerait son roman, me semble en rapport avec cette description au cœur de son roman.
Pas mieux? pas mieux.
Peut-être un peu Elisabeth trop optimiste. Non, peut-être un peu trop optimiste.
Ah oui, quand même.
Ouais. Mais moi, je le trouve pas mou hein, politiquement ce livre. Je trouve que, au contraire, il est d'une clairvoyance, mais fait avec modestie.
Lucille Comeau.
Mais même sur les dérèglements un peu intimes, parce que vous le disiez à juste titre, Raphaël, ça commence par un couple qui se délite. Enfin, on sent que ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est comment les grandes conditions font ce qu'elles font aux petites conditions humaines et donc au couple et aussi aux relations mère-fille, puisqu'il y a une relation mère-fille qui, pour le coup, de la même manière, est un petit peu intéressante. On se dit que la fille donc de ce fameux couple, Marc et Karen, elle grandit, donc elle va prendre une importance. Elle se politise un petit peu à peu près aux trois quarts du roman. Bon, la fin est vraiment sur elle, enfin, la concerne directement. Ça, c'est vraiment très décevant ce qui fait de ce personnage-là et ce qui fait du conflit entre elle et sa mère. Ça va pas très loin et du coup, je trouve même que, enfin, je vais être vraiment très sévère, mais je trouve même que politiquement, ça dit presque quelque chose à l'encontre de ce qui veut dire. Le dérèglement, il a finalement pas lieu. Moi, c'est comme ça que je lis la fin du roman.
Non.
Pour le moment.
Oui, mais pour le moment, en 2000, avant la crise des subprimes.
Non, non, après. On est quasiment avant Occupy Wall Street.
Oui, c'est ça.
La scène finale nous annonce Occupy Wall Street.
Bon. Il faudrait que je le lise hein, pour essayer de tout à fait comprendre ce que vous venez de dire. Mais en tout cas, beaucoup d'éléments concernant ceux d'ici de Jonathan Dee, publié chez Plon dans une traduction d'Elisabeth Pellaert. Et avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir, pour en connaître enfin la réponse, Grégoire Di Fiore.
Quel film d'Ang Lee racontait les amours bucoliques de deux cow-boys? Et la réponse était Brokeback Mountain.
Bucolique, comme vous dites. On fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Dans la peau d'un soldat, de la Rome antique à nos jours. C'est une exposition à découvrir jusqu'au 28 janvier au musée de l'armée à Paris. Quelle est la question?
Comment fut désigné dans les années 50 un groupe d'écrivains réunis autour de Roger Nimier?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions ou, le plus simple, vous abonner au podcast de la dispute. Nous vous donnons rendez-vous demain, 19h, pour une dispute cinéma. Nous serons en compagnie de Muriel Joudet, Antoine Guillot et Julien Gester. À notre affiche, Le Lion est mort ce soir, de Nobuhiro Suwa, I'm not a witch, de Rungano Nioni. Nous parlerons également du coffret ultra collector Hitchcock, les années Selznick, en Blu-ray et DVD chez Carlotta.